Bonjour. Comme chaque mercredi à 18h, on vient vous parler de la Palestine et des activités qu'on organise dans la région PACA pour défendre les droits des Palestiniens, mais aussi pour former et informer le public. Cette émission une heure en Palestine est présentée par des associations comme Palestine 13, BDS Provence, Marseille-Gaza-Palestine et encore. Cette semaine, on commence par le vendredi 24 mars à 20h30 à La Baleine, au cinéma La Baleine, en avant-première, le film de Alam de Firas Khoury. C'est ta mère qui accepte de prendre part avec quelques amis à la veille de la fête de l'indépendance israélienne, jour de deuil pour les Palestiniens, la Nakba, à une opération mystérieuse. Donc venez voir l'avant-première Alam de Firas Khoury à La Baleine à 20h30 le 24 mars, ce vendredi 24 mars. Le 25 mars, le samedi, à 17h, à la librairie Transit, 51 boulevard de la Libération, Sadia Aksous, venez découvrir l'ouvrage de Sadia Aksous avec la présentation de Sadia Aksous en direct, intitulé Derrière l'hébreu, l'arabe. C'est un roman palestinien en hébreu, de 1977 à 1966 jusqu'à 2017. Cet ouvrage, il examine tous les romans écrits en hébreu par les écrivains palestiniens en Israël, donc pendant cette période citée, donc 1966-2017, dans le contexte littéraire et culturel arabe minoritaire auquel appartiennent ces écrivains et le champ culturel hébraïque auquel ils sont supposés appartenir. Donc c'est à la librairie Transit, le samedi 25 mars à 17h avec la présence de l'auteur Sadia Aksous. Ou encore, le 25 et 26 mars à la Ciotat, venez participer à la route de Zaatar. Pendant les nauticales de la Ciotat, samedi 18 et dimanche 19 mars, mais aussi 25 et 26 mars, donc c'est l'objet de 25 et 26 mars, un stand de route de Zaatar sera installé sur le pont de Ketch Goyalan avec les produits de Fipsouk. Fipsouk, c'est les produits palestiniens. Pendant ce salon, on peut s'inscrire, donc les gens peuvent s'inscrire et pour participer aux navigations et aux escales de la mini-route de Zaatar qui fera suite au Festival de Palestine en campagne en Aveyron avec des événements à l'Estac ou encore le Vieux-Port le 14 et 15 août. Puis des navigations et des événements aux escales de Toulon, Ajaccio, Calvi, Cannes, puis Porquerolles le 2 septembre et Toulon le 3. Aussi, venez découvrir 6 photos de pêcheurs de Gaza qui sont exposées au bord de Ketch Galéon et qui sont déjà exposées du samedi 18 jusqu'au 26 mars. Donc rappel, 25 et 26 mars à la Ciotat, route de Zaatar. Le dimanche 26 mars aussi, à 17h, au Polyglotte Étoile, venez découvrir la Palestine et Japon. Palestine et Japon, c'est un film qui comble la distance entre le Japon et la Palestine et met en avant les liens politiques entre les deux pays. Il a été réalisé à la suite de l'ouverture du bureau de l'Organisation de libération de la Palestine à Tokyo. Il nous informe des différents réseaux de solidarité au Japon. C'est un film présenté par Mohamed Yacoubi, qui a été réalisé en 1979 en 20 minutes, mais il est sous-titré en anglais uniquement. Donc dimanche 26 au Polyglotte Étoile, Palestine et Japon, sous-titré anglais uniquement. Aussi, nous vous invitons le vendredi 31 mars à 18h30 pour entendre et écouter la poésie de la Palestine au Centre Social Mère et Colline. Le Centre Social Mère et Colline, c'est au 16 boulevard de la Verrerie au 13008 Marseille. Pour accéder, vous prenez le bus de Castellane bus 19, numéro 19 Castellan, qui est en direction de la Madrac, vous descendez justement à l'arrêt de la Verrerie, pas loin de ce centre social de Mercoli. Le 31 mars, le vendredi 31 mars à 18h30, vous venez entendre Jacques Mandria et Angie Picture à la compagnie théâtrale de l'Argile, ou encore Fatiha Fort au chant et au oud. Donc, Poésie Palestine au centre social Mère et Colline, vendredi 31 mars, 18h30. Voilà donc pour les différents événements qu'on organise pour la Palestine pendant cette semaine. Pour le reste de l'émission Une heure en Palestine, justement, restant sur la lancée du cinéma et des activités culturelles, je vous ai choisi d'écouter la table ronde qui a été organisée à Toulouse pendant le festival, donc pendant le Ciné Palestine de Toulouse, donc la 8e édition. Chaque année, il y a une édition pour le cinéma palestinien. L'intitulé de la table ronde, c'est « Ce que peut le cinéma ?» Donc justement, « Ce que peut le cinéma pour la Palestine ?» C'est une table ronde organisée dans le cadre du 8e Ciné Palestine Toulouse, Occitanie, qui a été organisée du 7 au 15 mars 2022, avec la participation des réalisatrices Judy Abnoussour ou Samaher Al-Kadi, et du critique du cinéma Tahar Chikawi, avec la modération de Nadine Picodo-Cotus, qui est historienne spécialiste de l'approche du Proche-Orient arabe et contemporain. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site de Ciné Palestine Toulouse, ciné-palestine-toulouse.fr. Chaque année, il y a vraiment plus d'un cinéma, donc une organisation différents événements pendant plus d'une semaine. Voilà, donc bonne écoute pour cette heure en Palestine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.
Bon, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Donc, nous poursuivons cette 8e édition avec une table ronde intitulée « Que peut le cinéma ?» Je vais tout de suite vous présenter les intervenants qui sont autour de la table. Moi, je ne suis rien d'autre que présentatrice et modératrice, donc ce sera à eux de jouer, à eux et à elles, parce que nous avons le plaisir de recevoir deux réalisatrices palestiniennes ou ayant travaillé sur la Palestine. Deux réalisatrices, c'est ça l'important, ce jour, non pas de la femme, hein, mais des femmes, des droits des femmes. Voilà. Donc, j'ai posé la question à Tahar, à ma droite, parce que je lui ai demandé s'il ne serait pas gêné. Il m'a dit, j'ai une grosse habitude de travailler avec des femmes, tout va bien. Voilà. Donc, je vous présente donc d'abord les intervenants et ensuite je vous présenterai Mour qui traduira. Ça va, ton rythme, c'est trop
rapide. Oui, ça va.
Donc, je vous présente Samaher Al-Qadi, qui est une documentariste palestinienne, qui est née dans le camp de Jalazoun, près de Ramallah, en Cisjordanie, qui a d'abord travaillé pour le ministère palestinien de la culture, avant d'intégrer l'Institut supérieur égyptien du cinéma. Elle a réalisé plusieurs documentaires, je vous donne les principaux. Un documentaire sur l'acteur palestinien que vous connaissez probablement, qui s'appelle Mohamed Bakri, en 2008, c'est ça?
Oui.
Tu me diras si je me trompe, ça va?
Oui, oui.
C'est bon. Un documentaire de 2009 qui s'appelle Gamalat, avec l'accent égyptien, comme je peux. Un film en 2012 qui s'appelle Rajaïm, c'est ça?
Oui.
Très bien. Et en 2021, le film qui nous intéressera, qui s'appelle As I Want, et qui est son premier documentaire long métrage, et qui sera présenté donc en première toulousaine lors de la clôture du festival. Donc, je vous engage vraiment à y être. Ça sera mardi 15 mars à l'American Cosmographe. Notre deuxième invitée réalisatrice est à ma gauche. Il s'agit de Judith Abensour, qui est à la fois réalisatrice et écrivaine, qui enseigne le cinéma à l'ENS des arts décoratifs à Paris, c'est bien ça, qui a réalisé elle aussi un certain nombre de films. Je vais vous citer les principaux peut-être. En 2002, Au pays des voyelles. En 2008, Dedans dehors, en 2013, Parade, c'est ça, et qui pour nous est donc la réalisatrice d'un film que nous verrons demain soir, à l'ABC à 20h30, qui s'appelle Fedora, et où, évidemment, où elle sera présente pour animer le débat qui suivra. Lui aussi se filme en première toulousaine. Donc voilà, nous allons essayer d'avoir les paroles de ces deux réalisatrices autour de cette question prétexte que peut le cinéma. Mais c'est pas terminé, parce qu'à ma droite, il y a donc Taha Chehraoui, qui est déjà venu plusieurs fois à Toulouse, Ciné-Palestine, qu'on connaît bien, qui est diplômé, lui, de l'ENS de Tunis, qui a enseigné le cinéma à l'université de la Malouba à Tunis, c'est bien ça, et qui a toutes sortes de casquettes, organisateur de cycles de formation, président d'une association qui s'appelle Archipel Images, c'est bien ça, et animateur, entre autres, du Festival des cinémas d'Afrique, dans le pays d'Apt. Alors, j'ai cherché où c'était, c'est dans le Luberon. Vous avez beaucoup de chance. Voilà. Donc, il me reste à vous présenter Nour, qui est tout à fait à ma droite, là-bas. Nour, alors, Al-Rabia en français, Al-Rabia plutôt en arabe, voilà. Qui a une double formation de pharmacie à l'Université islamique de Gaza et de gestion à l'Université de Toulouse, un Capitole, et qui est enseignant-chercheur à l'IDRAC, je ne sais pas ce que c'est, sinon que c'est une business school, c'est ça? Voilà. Et qui s'occupe de management, mais de management, entre autres, de théâtre. C'est pas tout à fait ça. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, elle nous servira d'interprète, notamment pour Samarel, qui comprend le français, mais qui a un peu de mal pour l'instant à le parler. Voilà. Bon, je ne veux pas. Donc, je vais simplement dire comment on va s'organiser. Donc, il s'agit essentiellement de faire circuler la parole entre les trois intervenants pendant à peu près la première moitié du temps, c'est-à-dire une demi-heure, 40 minutes. Ils vont échanger entre eux, si vous voulez bien. Donc, je poserai une question liminaire et après ça, je les laisserai échanger entre eux. Et dans le deuxième versant, nous vous donnerons la parole pour toutes les questions sur le cinéma. Voilà, et sachant qu'il faut que nous terminions au plus tard du plus tard à 20h pour les contraintes des uns et des autres pour la suite de la soirée. Voilà, alors plutôt que d'affronter comme ça en face, de prendre de front cette question qui est à la fois une question éculée que peut le cinéma et une question extrêmement ambitieuse, j'ai pensé qu'il serait bon peut-être de commencer par demander à nos deux réalisatrices un peu de parler de leur expérience personnelle du cinéma et du cinéma touchant à la Palestine, puisque c'est notre objet privilégié, on va dire, évidemment, en sachant en même temps que dans les deux filmographies, celle de Judith comme celle de Samarel, il n'y a pas que la Palestine. Donc voilà, j'ai envie de leur demander de commencer à nous dire qu'est-ce que c'est pour elles le cinéma, rien que ça, et qu'est-ce que c'est pour elles que l'objet Palestine. Ça va?
I'm so sorry.
Oui.
And she's trying to translate for me. It's really a...
Et je demanderai ensuite à Tahar de rebondir sur le discours des réalisatrices et d'enchaîner sur la première partie de la table ronde. Voilà. Donc, je ne sais pas qui commence. Ça m'arrête, Judith.
Comme tu veux. As you like. But you have to repeat the question.
Allez, yalla, ça va. À toi.
As you want.
Tu veux mon micro, c'est plus facile.
Merci.
Voilà. Et elle fait en deuxième pour que je puisse traiter. T'as qu'un expérience de pantec ou voir un enflammé. Je sens mettre la chaîne de pantec en relation.
Ou voir.
Traiter comme un terme de relation.
قلتي ان عربي
بس
تحكي جمله بدي احكي للعربي لك
ما انا رح اترجم بس احكي بالمايك
سي اي ويل سي سامثينغ ان فرنش سي تري ديفيسيل بور موا مادنو جو كومبران ان بو مي ابري تو بارلي سي ديفيسيل مي اي ل بارلي ان عرب بوتيت اي تو ماي فريند نور اند ذن شي ويل ترانسليت انجلش نو
It's just as you like it.
Okay. Now I forgot the question. So just about my experience and the films I have made. Okay. مع الأشياء المتعلقة بفلسطين. It's a general question.
في علاقة بالموضوع. يعني.
في الأفلام تبع
أعمالك. في علاقة بالأعمالك. في علاقة بالموضوع.
C'est difficile comme ça la question. D'accord. الأعمال تبعوني أنا اشتغلت فيها هي أول فيلم عملته كان عن الأستاذ محمد بكري هو مخرج ممثل فلسطيني معروف أكيد هم بعرفوه
Bonsoir tout le monde. Par rapport à ses travaux, donc elle dit le premier travail qu'elle a fait, qui est toujours la Palestine, c'était autour de Mohamed Bakli, qui est un réalisateur palestinien.
Un acteur.
Oui. Et acteur. Acteur et réalisateur.
Et the film was named by his name and it was made for a program called Talent and I was trying to concentrate on بحكي بالانجليزي المرة الثانية معلش فهمي انت طبعا الفيلم كان اسمه بيحكي عن تجربة محمد بكري بعد ما عمل فيلم جنين جنين هو عمل الفيلم جنين جنين وهو بيحكي عن اقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية.
Donc le film concernait, il s'appelait également Mohamed Bakli, l'acteur et réalisateur, et au fait il s'intéressait à son expérience pour la réalisation et le travail sur le film Jenin Jenin, savoir Jenin est une ville palestinienne en Cisjordanie. Et donc lorsque il travaillait sur ce film,
وبعد ما عمل الفيلم حصلت حملة كبيرة ضد محمد بكري وصار ممنوع من التمثيل وممنوع من الشغل رح أحكي لك جنرال عشان أسهل فأنا قررت أعمل فيلم عن شو صار محمد بكري بعد ما هو عمل الفيلم اسمه جنين جنين وشو الحكومة الإسرائيلية عملت فيه وبحياته وبأهله بسبب أنه هو عمل الفيلم.
Donc, après avoir fait le film, en fait, son film était censuré. Il y a eu toute une campagne contre lui. Il était interdit de travailler, de réaliser. Et il y a eu toute une histoire autour de toute sa vie, ses travaux, etc. Et donc, tout l'impact de cette campagne, est-ce qui a intéressé sa mère et ce qu'elle voulait montrer dans ce film, après Mohamed Bakri.
Mohamed Bakri, حصل لتقريبا القضية اللي هلأ موجودة ضد الفيلم اللي هو عمله ولهلأ في محكمة عشان الفيلم اللي هو عمله فبالنسبة لي كان كتير مهم أحكي عن الدولة الديمقراطية اللي محتلة دولة تانية كيف عم تقمع ناس تحت الحكم تبعها وبما أنه هن بيحكي عن حالهم ديمقراطيين وكل هالقصة فهو تعرض لاضطهاد كتير 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 قوي هو وأهله وولاده فهذا فكرة الفيلم.
Donc l'idée de film, au fait, à savoir le film La traînée en justice, c'est toujours d'actualité, donc c'est pas fini, c'est encore entre les mains de la justice israélienne. Donc il voulait parler de la justice de censure d'un réalisateur palestinien, enfin qui vient d'un État dit démocratique, qui va occuper et oppresser un autre État, et qui va, donc de la démocratie et la justice, et ce que vous voulez, oppresser la liberté d'expression est encore occupée, et malgré tout, reste reconnue dans le monde comme un État démocratique.
مش عارفة إذا هيك خلصت الجواب على السؤال بس يعني إذا بتحبوا بحكي عن الأفلام الثانية بس مش عارفة إذا تمام
donc c'est plus la enfin c'est si c'est satisfaisant par rapport à sa réponse ou est-ce qu'il faut qu'elle parle d'autres travaux
parce que this is the subject that has to do with
the travail
prochain film qu'on verra un petit peu quand même même si on l'a pas encore
d'accord. That's the film that has to do with the direct subject of Palestine. I have made another two films. One, it was in Egypt, and I really like this film, and I really want to actually say something. And I'm sorry, عشان الإنجليزي دخل كتير بالثاني. And she تفهم. الفيلم الثاني كان اسمه جمالات وهذا الفيلم بيحكي عن مغنية مصرية عمرها كان أكثر من 75 سنة وكانت لسه بتغني وأنا كنت مبهورة كتير في هاي الست وللأسف ما قدرت أعمل عنها إلا 5-6 دقايق كان كتير بحب أعمل فيلم كبير عنها لأنه كتير هي إمبرسيف هذا الفيلم الثاني سوري.
Donc le second film c'était donc plus en lien avec l'Égypte, c'était pas la Palestine et il concernait une actrice.
Non, she's a singer.
Pardon, donc en chanteuse égyptienne qui s'appelle Jamalat. qui impressionnait sa marraine. Donc elle était très impressionnée de cette personne. Il voulait faire un film sur elle, donc c'était un court métrage. Elle voulait faire vraiment beaucoup plus long, mais elle a pu faire que 5-6 minutes.
Parce que she was singing, كانت بتغني أغاني كتير شعبية وقديمة وهي كانت كتير كتير كبيرة بالسن ولا زالت بتغني ف voilà.
Alors, ce qui était impressionnant surtout, c'est que elle chantait des chansons surtout populaires. Elle était très âgée, donc
underground.
Elle avait plus de 75. Et elle continuait toujours à chanter. Alors, à savoir que lorsqu'elle dit très populaire, c'est un petit peu, on peut dire autour ça peut être des gros mots, des sujets tabous, etc. Donc, c'est vraiment, c'était la liberté de chanter ce qu'elle a envie de chanter.
مرسي كنت رحت زيارة على باريس زيارة عائلية وقررت أقابل صديقتي من سوريا وهي كانت عايشة معي في مصر واللقاء كان في مظاهرة كتير كبيرة في باريس وكتير كنت عجبني كيف السوريين كانوا عم يتظاهروا كانت التظاهرات كلها عبارة عن رقص وغنى ودبكة فتأثرت وعملت فيلم برضو عن الموضوع.
Un autre travail qui était fait autour de... Alors, elle était en voyage à Paris pour visiter une copine syrienne. C'était un moment où il y avait beaucoup de manifestations. Et donc, elle était aussi elle est impressionnée, elle a admiré, elle a adoré comment ces manifestations se sont passées. Bon enfant, avec de la danse, de la musique, etc. Donc, c'était un sujet également qu'elle a traité dans l'un de ses travaux.
Et voilà. C'est tout. It's not easy to talk about yourself.
As I want.
As I want is the most important thing for me. as I want. I don't know how to talk about as I want if there is no specific question. Because this film, it's my first baby, my first like real big darling movie. And في الفيلم هذا هلا بحكي معلش في الفيلم هذا يعني انا ما كنت مقرر ما يعني first of all بحب اليوم لانه اصلا 8 مارس اني اوجه تحية لكل الستات بالعالم الحقيقة لانه هذا الفيلم اذا بخاطب هو بخاطب السيدات طبعا لانه هو بيحكي عن مشاكل وايشوز لها علاقة في السيدات فلما بلشت أعمل الفيلم هذا أنا it was kind of like a lot of كتير عليكي هيك
خلصي الجملة وباقي
يعني it was a lot of anger and frustration في الوضع هناك في مصر ب 2013
Donc, pour le film As I Want, c'est particulièrement difficile d'en parler comme ça sans avoir des questions. Donc, flash publicitaire, ça passera comme au mardi et donc voilà, elle répondra aux questions. Mais ce film, pourquoi il est si difficile à parler, parce que c'est son premier bébé, c'est le premier vraiment long film sur lequel elle a travaillé beaucoup. C'était en 2013.
À la fin de la page.
Donc en 2013, en fait, il y a une vague de colère, de frustration. Chez la femme palestinienne, chez les femmes. Et donc, elle tient à dire que ça tombe bien de parler un petit peu de ce film aujourd'hui, parce qu'on est le 8 mars, et d'où elle salue toutes les femmes du monde. Et le film concerne bien toutes les femmes du monde.
I would like to talk more about the film, really, but I would like some specific question about it because it's better to watch the film. This film, it means a lot to me because it's not only about the woman that they are in the street, it's also about me and myself and my mom.
We'll keep the question for Tuesday.
Yes, because I am so interested about the discussion of today, what cinema can do. Thank you.
Okay.
Je pense que c'était clair. Par rapport à ce film, donc, c'est vraiment, elle aimerait avoir des questions, ça serait plutôt après la projection. Et là, elle aimerait plus parler que le cinéma.
D'accord. Bon, on va passer la parole à
Judith. Merci.
Voilà. Bon.
Merci.
C'est quoi le cinéma pour moi? Ça va être un peu difficile de répondre, donc je peux revenir un peu rapidement comme ça sur un parcours. Vous avez cité les deux premiers films, ça, je vais peut-être pas m'attarder dessus, c'est un documentaire, une fiction, voilà, mais je vais commencer à parler plus de Parade, qui est donc le premier film que j'ai réalisé en Israël et Palestine. Voilà, donc Parade, c'était en fait, donc je suis également enseignante. Parade, c'était un projet de film, enfin, un projet de film collectif qui n'a pas pu avoir lieu. C'est un échec de film collectif, puisque j'étais partie avec un groupe d'étudiants français dans une école d'art en Israël. Et donc, dans ce groupe, il y avait des étudiants israéliens, une étudiante palestinienne et des étudiants français. Et évidemment, ce film collectif n'a pas pu advenir. Et à partir de cet échec, nous avons réalisé, ce sera un film qu'on a fait à deux, moi-même et Tom Bauer, on a réalisé donc un film qui raconte cet échec et qui s'appelle Parade. Voilà, à travers l'échec, raconter un peu aussi, évidemment, l'état du conflit, bon, à notre échelle. Voilà, et donc ensuite, je suis, donc ça c'était l'expérience avait eu en 2011, et puis le temps de faire le film date de 2013. Et ensuite, moi, ça m'a permis, donc moi je connaissais surtout Israël, et c'est à travers cette expérience que j'ai commencé à aller en Palestine. Je ne connaissais pas la Palestine directement, je ne la connaissais que par le prisme, on va dire, d'Israël, ce qui est quand même très décalé, évidemment, comme point de vue. Donc, le fait d'aller en Palestine a été vraiment une très grande découverte pour moi. Et donc, j'ai décidé de poursuivre un peu les recherches, mais je ne savais pas trop. Enfin, je savais que voilà, j'avais envie de continuer à aller dans ce lieu. J'ai monté un projet de recherche autour de l'archive. Donc, c'était un projet de recherche aussi lié à mon enseignement, enfin, à la recherche qui peut se faire en école d'art. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment le rapport aux archives, et notamment, alors, il y avait deux choses. Il y avait le fait que beaucoup, il y a, évidemment, comme les archives ont été volées, ont été confisquées, beaucoup, notamment d'artistes, travaillent autour de cette question des archives, et c'était tout le rapport à la fiction dans le rapport à l'archive qui est vraiment nous intéressait. Donc, avec mon collègue, on a rencontré aussi des artistes, mais aussi des historiens, des géographes. Enfin, voilà, on a essayé de travailler ce rapport entre l'archive en sciences humaines et l'archive en art. Et puis, on s'est également énormément intéressé à la question du numérique, parce que aussi, il y a beaucoup de projets d'archives numériques, et c'est la dimension numérique fait que l'archive aussi sort de la dimension institutionnelle. Normalement, les archives sont toujours liées à un état, à une version souvent très étatique de l'histoire, et là, la version numérique permettait de réinventer presque le concept d'archive. Donc, c'était également, ça me semblait extrêmement riche. Donc voilà, donc on a fait tout un projet comme ça, et en faisant ce projet, j'ai commencé à entendre parler d'un musée qui était donc ce musée de l'histoire et de la culture palestinienne, qui est un musée qui, au moment où moi j'ai entendu parler de ce musée, il était en construction, il n'était pas encore construit. Donc ce musée avait une partie, en tout cas, qui concernait cette question des archives. Il y avait un projet d'archives numériques liées au musée. Voilà, et puis ensuite je rentre en France, et un ou deux ans après, je lis dans le journal que ce musée donc a été inauguré. Donc il est près de Ramallah, il est juste à côté de l'université de Bir Zeit. Et donc je lis dans la presse qu'il y a eu une inauguration de ce musée, mais le musée a été inauguré vide. Et donc là, évidemment, je suis un peu saisie de cette nouvelle. Et donc j'ai commencé à me renseigner sur toute l'histoire de ce musée, qui a une très longue histoire en fait, parce que le projet du musée date de 97 et il a été inauguré en 2017. Donc je me plonge dans toute l'histoire du musée et je me rends sur place. Donc, quand j'arrive, il y avait eu une inauguration du musée vide. Le musée, quand je suis arrivée, n'était pas encore investi par une exposition. Puisqu'en fait, il y avait un projet d'exposition, mais qui avait été refusé, qui avait été annulé. Et il y a une exposition qui est prévue, première exposition inaugurale qui est prévue quelques mois plus tard. Donc à ce moment-là, je me dis, il faut filmer, ce moment entre ce musée-là qui n'est pas encore investi et puis tout ce processus jusqu'à l'inauguration du musée, en disant que en filmant le montage de cette première exposition, j'allais essayer de raconter l'histoire de ces 20 ans de réflexion autour de ce que devait être ce musée, avec l'idée que, en fait, raconter l'histoire du musée, ça pouvait aussi raconter quelque chose du rapport de la Palestine à sa propre histoire. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'est né le projet.
C'est un grand projet.
Désolée, j'étais un peu longue, peut-être. Non, c'est très bien. Merci.
Bonsoir. Il y a beaucoup de matière dans ce que nous avons entendu quant à la question de que peut le cinéma, et ce qui tout de suite m'interpelle moi par rapport à ton film, notamment celui de Mohamed Debakri, c'est évidemment la question là, elle est pertinente, elle se pose vraiment. Puisque effectivement l'objectif j'imagine c'est peut-être pas de réparer une injustice, mais en tout cas d'informer de quelque chose qui n'est pas normal, quoi. Donc là, évidemment, l'utilité est claire, quoi. Sauf que, on l'attend souvent du cinéma, et notamment des cinématographies minoritaires, comme on dit. On a envie, le spectateur, j'imagine, après vous ferez part de vos réactions, on attend d'une manifestation comme celle que, à laquelle nous sommes en train maintenant de participer, que ces films-là nous disent des choses sur la Palestine, nous apportent des informations que nous n'avons pas forcément. Ce qui est, je trouve, à la fois normal, vu l'état des médias, et le déficit médiatique quant à ces questions-là, puisqu'on ne parle pas tous les soirs de la Palestine, de ce qui se passe, des tenants, des aboutissants. Et évidemment, un cinéaste se sent palestinien ou intéressé par la question palestinienne, se sent forcément concerné par ça. Réagit par rapport à ce déficit. Donc, il fait un film pour donner. Dans ce cas-là. Dans votre cas à vous, c'est étrange parce que c'est intéressant, parce qu'on est à l'autre opposé, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu. un film qui n'a pas été fait et un musée qui n'est pas encore garni. Donc c'est une proposition que vous faites, en fait vous faites un film pour proposer quelque chose, et là nous tenons, à mon avis, à travers ces deux petits exemples, je vous pose la question, si est-ce que ce que je dis correspond à vos intentions ou pas. Effectivement, le cinéma, c'est plus que la radio, c'est plus que la télévision, c'est beaucoup plus large, c'est-à-dire le cinéma informe, bien sûr, et il n'informe pas comme informerait, même en France, quand on fait un cinéaste français fait un film français sur la question, une question sociétale, il ne va pas le faire comme la télévision le fait, ou la radio. Il va le faire d'une autre manière. Ne pas se contenter simplement d'informer, mais de montrer ce qui est caché, de révéler. J'emploie à bon escient ce mot parce que c'est un mot essentiel dans l'un des plus grands théoriciens du cinéma en France. Il s'appelle André Bazin. Puisque pour lui, l'esthétique du cinéma, elle est fondée sur la révélation. Parce que on voit pas tout dans la réalité. Il y a un cinéaste, il nous montre des choses. Et le cinéaste, il nous montre des choses qui ne sont pas... Mais en même temps, le cinéma, nous, et c'est un mot qu'on utilise dans les théories, propose un cinéaste. Parce qu'il construit, il monte, il cadre, il fait des films de fiction parfois, pour divertir, bien sûr, ça, le divertissement, c'est le lion, c'est normal. Mais c'est pour proposer quelque chose, au moins au niveau de l'imaginaire, c'est-à-dire de imaginer quelque chose d'autre, que ce soit sur le mode positif ou négatif, peu importe. Ça peut être une comédie, ça peut être une tragédie, c'est pas le problème. Le problème, c'est que un film va au-delà, enfin, explore les possibles. Et je pense que là, on a effectivement, je ne sais pas si ce que je dis correspond à ce que vous avez fait, je voudrais vous poser la question. Est-ce que qui est exercé sur les cinéastes qui viennent de ces régions-là, de ces pays-là, et qui parfois les confinent presque dans le rôle de journaliste, alors que ce sont des artistes. Parfois, ça me gêne, et mon rôle de critique, enfin moi en tout cas, consiste pour moi à essayer d'aller au-delà, de dire, c'est pas un journaliste, la personne à laquelle vous avez affaire, c'est une artiste. Tu peux aussi déformer, entre guillemets, la réalité, ou la transgresser, et non pas la copier mécaniquement et bêtement pour répondre à une demande minimale du public. Et la question en Palestine se pose, évidemment, avec tous les nouveaux cinéastes palestiniens qui nous parlent de la Palestine, mais d'une autre manière, parfois, d'une manière très critique aussi par rapport à la société palestinienne proprement dite. Donc, moi, ma question, c'est ça. Parce que j'imagine que dans la situation où tu te trouves, forcément, ce besoin d'informer, de faire parvenir une information sur une réalité qui n'est pas forcément communiquée ou tronquée par les médias. Et moi, la question, c'est comment concilier ça avec votre désir de cinéaste?
فكيف انت بتصالح رغبتك كارتست انك تعمل شيء واحساسك بضروره انك تعطي انفورميشن تخبري
وي تخبري
الو thank you. First, I would like to say that the question is how the pressure is زي كيف ال pressure علينا بأنه ما نكون artist ويبقى بس منقدم معلومة. إذا إحنا بنحكي عن السينما, السينما هي أداة كتير 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 مؤثر في كل شيء. السينما إذا كانت في الفيكشن, إذا كانت في هلأ الدوكيومنتري صار مختلف, بطل هلأ الدوكيومنتري صار مختلف, بطل بس مجرد انترفيو انفورميشن. أنا بصراحة ما إذا في ضغط أنا حسيت فيه, أنا بفضل أحكي أكتر طبعا على قديش السينما ممكن بتأثر علينا كلنا. السينما بشكل عام, مش بس السينما, السينما إلها تأثير سياسي اجتماعي اقتصادي على كل العالم. بالبيت وأنت قاعد تتفرج. I'm so sorry, it's too much for you.
Donc, par rapport à la question,
pardon,
pas de souci. Donc, la pression que se sentira un cinéaste lorsque il va travailler son film avec ce sentiment de devoir informer. Donc, tout d'abord, ce qu'il aimerait mettre en avant, c'est que le cinéma, c'est une performance influente. Donc, le cinéma influence tout le monde partout, y compris nous-mêmes, donc dans le sens les artistes. Et donc que ça soit à la maison, dans leur travail ou partout. Donc le cinéma, c'est vraiment elle a beaucoup d'influence.
L'influence économique, sociale, politique.
Et donc cette influence, et ça peut être sociale, économique, politique, donc à tout niveau.
Voilà. Et c'est un grand subject.
C'est ça.
C'est grand subject. I love to talk about. J'adore de parler about le subject parce que je pense, I think. اعتقد عربي وانجليزي فرنسي. اعتقد انه اجيال كتير واحنا كمان اجيالنا واجيالكم واجيال كتير بتتأثر بطريقة حياتها ممكن فيلم يأثر على شخص حياته كلها تتغير. الشباب الصغار هلا مثلا عندك هلا الاكشن والافلام سي سي غران سي غران سابجيكت مي اي ويل كم باك
Donc pour Samara et le cinéma, c'est vraiment très très influent pour des générations de générations. Un film peut changer toute la vie d'autres personnes.
Pour donc, nous aussi, pour
nous les artistes, enfin pour tout le monde. Donc un film peut à la fois changer la vie d'autres personnes qui fait le film ou connaît une personne qui va le regarder.
Je voudrais parler à bord. I will try, my French is very bad. يعني بحب أحكي في الموضوع هذا كتير بس هو it's a big subject. أنا نرجع للسؤال كيف الضغط علينا إحنا نعمل أفلام هي information. هاي الأفلام الانفورميشن أنا بنوجه نظري هي مش أفلام
يعني. revenons à la pression de devoir faire des films informationnels. Selon Samahel, ce film informationnel, ce sont pas des films.
Reportages.
Ce sont des reportages.
C'est ça.
Et c'est la pressure ou la ضغط احنا بنحس فيه انه لازم انا ما عنديش اي ضغط.
Pour elle, il y a pas de pression.
Et كان في عندي ضغط واحد كفلسطينيه بصراحه يعني انا كشخص فلسطيني جاي من فلسطين ومتربي في مخيم وكل هالظروف الصعبه الواحد عاشها. اذا بدي احكي عن شيء ما كنتش حابه احكي عن الاشياء اللي انا شفتها يعني هذا ضغط كان بالنسبه لي. انت فلسطينيه هلا بعطيك جنرال عشان ما نمشهم. هلا انت فلسطينيه بدك تتعلمي السينما عشان تطلعي تعملي افلام عن القضيه الفلسطينيه. السينما اكبر من هيك. هذا كان شوي بريشر عندي لانه انا اوريدي هناك. انا بفكر أنا متأسفة تفضلي. يعني it's too much for you, c'est vrai.
Ce qu'elle disait, c'est que pour elle, il n'y a pas de pression dans le sens informationnel. Par contre, la seule pression qu'elle se disait, c'est que le fait qu'elle soit palestinienne, qu'elle ait grandi dans un camp en Palestine, qu'elle ait vécu des situations difficiles, c'est un petit peu les attentes des autres. C'est que tu dois parler pour la Palestine, tu dois faire des films sur la Palestine, sur ton sur vécu, la sur ton expérience, sur cette cause.
أنا بعتقد إنه الكوز هذا البرشر اللي كان علي. يعني أنا ما كنت حابة إنه الناس تكون مستني مني أعمل أفلام عن النضال الفلسطيني. وأنا بفكر إنه الفلسطينية هلا بفكر العالم المفروض يحكي عن المعاناة تبعتهم مش هم.
Et donc pour elle, alors c'était cette histoire, cette pression de devoir parler de la lutte palestinienne, alors que pour elle, bah il est temps que le monde s'intéresse à cette lutte-là. Et c'est pas les Palestiniens à eux de venir à nouveau et à nouveau de redire et dire ce qui, enfin cette lutte et de la mettre en avant.
Ouais.
C'est une
oui. Oui.
La même question. Elle répond sur la même question.
Oui. Oui, je pense que ce qui est intéressant, c'est que sa mère et moi, on est vraiment dans des positions très différentes. Oui, parce que moi, je suis de l'extérieur, alors que sa mère, j'ai vu son très beau film. Il a une nécessité fondamentale et subjective et intime. Et voilà, il s'impose, je pense, dans sa nécessité, de manière très évidente. Moi, je suis extérieure, en fait. Et donc... on va dire que ce qui m'a semblé nécessaire, c'est ce que vous évoquez, c'est cette question des représentations. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a frappé, c'est que, en fait, je me suis rendu compte à quel point il y avait une sorte de décalage, en fait, entre ce qu'on pouvait connaître d'une image de la Palestine et la façon dont moi, en tout cas, elle m'est apparue. Et donc, voilà, j'ai eu envie de témoigner de la façon dont, moi, en tout cas, je la voyais, d'essayer de proposer une autre image. Il se trouve que c'est passé par ce musée, d'abord parce que je pense qu'on connaît assez mal les artistes contemporains palestiniens. Je pense que c'est quand même une représentation qui est pas si courante. Par ailleurs, ça m'a aussi permis, en abordant le musée, de parler aussi de cet état un peu de la mondialisation à Ramallah, parce que c'est un musée d'art contemporain, ultra contemporain, magnifique, enfin une architecture très très belle. Mais du coup, ça raconte aussi un certain aspect de Ramallah aujourd'hui, et je pense que c'est aussi assez peu représenté. Je pense que les, enfin moi par exemple, la première fois que je suis arrivée à Ramallah, je m'attendais pas à trouver cette ville-là, ces cafés mondialisés, c'est voilà. Et donc ça aussi, j'avais envie de témoigner de ça. Mais en même temps, en restant comme ça en huis clos dans le musée, il y avait pas que cette mondialisation, il y avait aussi toute la société palestinienne qui se retrouvait là, parce qu'il y avait aussi les ouvriers qui étaient là pour construire les œuvres, il y avait les artisans, il y avait les jardiniers, il y avait les gardiens, il y avait, et donc finalement ça permettait de décrire aussi toute une société dans sa diversité, dans ses contradictions. Voilà, et donc c'est aussi ça qui a été très important. Et pour revenir à le deuxième aspect de votre question, à savoir que je filme en effet à chaque fois à partir d'échecs. oui, c'est vrai. Et la figure du fantôme est ultra présente aussi à chaque fois dans les films, et c'est des choses très récurrentes. Mais c'est parce que je crois, justement par rapport aussi à cette question de l'information, parce que j'ai dit je veux raconter l'histoire du musée, mais dans le film, il y a une interview qui doit durer 2 minutes 30, mais sinon il n'y a pas du tout d'interview. Donc c'est pas du tout un film informationnel, on va dire. Mais c'est parce que, en fait, je crois beaucoup que le cinéma est lié à la question de l'utopie. Pour moi, justement, qui fait du documentaire, j'aime beaucoup confronter le documentaire et la fiction, parce que dans cet espace d'entre-deux, finalement, se raconte à la fois sans doute les échecs de notre réalité, mais aussi toute la virtualité de l'imaginaire, de ce qui aurait pu être, de ce qui n'est pas advenu, et que le cinéma ramène sous la réalité, on va dire. Et je crois que c'est ça, enfin, moi en tout cas dans ce film, Fedora, c'est ça que j'ai essayé de travailler, c'est de raconter, finalement ce musée, il est advenu, ce qui est formidable, avec toutes ses contradictions, mais il est là et c'est formidable. Il aurait pu être autre chose. Et donc, moi, dans le film, j'ai essayé de raconter ce qu'il aurait pu être, sans l'opposer non plus de manière frontale à ce qu'il est, parce que il porte aussi ce qu'il aurait pu être dans ce qu'il est, mais c'est pas non plus complètement accompli, parce que je pense qu'en Palestine, forcément, les choses ne peuvent pas être complètement accomplies, parce que c'est aussi la situation politique qui veut ça. Et je pense que le cinéma est l'art qui peut nous faire accéder parce que il y a le son, parce qu'il y a le montage, parce qu'il y a l'image, parce que il y a aussi la musique, parce que il y a énormément de strates sur lesquelles on peut jouer, et donc qui peuvent nous permettre d'accéder à cet espace vraiment incroyable qui est une sorte de virtualité du réel, quoi. Voilà.
ممكن بس أقول
شغلة
عشان لفت نظري والله هذا أسئلة لفت نظري إن هي قالت شغلة كتير مهمة وهذا مربوط بالنسبة لإلي فقديش السينما هي بتلعب دور كتير كبير بكيف تعرف الناس كيف تغير أفكارهم وكيف كمان تغير أفكارهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية كمان مرة. هي قررت تروح على فلسطين لأنه هي عندها فضول وتروح على فلسطين هي عندها فضول ولكن كم شخص عنده هذا الفضول عشان يروح ويسافر ويشوف الاحتلال ويعمل كروسنج للبوردرز وكل هذا كم شخص 1 2 3 4 5 ولا إشي عشان هيك السينما مهمة وعشان ما انا ببلش I start I don't know how to stop
une chose qui attirait son attention c'était lorsqu'il disait sur la dimension ce que le cinéma peut influencer ou peut changer même. Et ce qu'il lui a notamment ce qu'il voulait aborder, c'est sa curiosité. Donc la curiosité, je dis, d'aller en Palestine, d'aller faire ce film, d'aller découvrir, etc., passer par les checkpoints, etc., etc. Et il se pose la question, mais combien de personnes dans le monde feront ça? 1, 2, 3, 5,
Ouais. Ils sont curieux.
Il n'y a pas beaucoup tout le monde de ça et de voyage juste comme ça, de country crazy country like that. So parce que ça, la cinéma c'est très important et pour là tout le monde de voir. On a parlé français mieux par les gens. Et là, hatta, ils savent ce qui va se passer dans le monde. Parce que l'éclairage, ou les médias, ou le cinéma, ils m'ont السينما المبهرة جدا اللي بنتفليكس واللي بأمازون وكل هالحكي هاي السينما برضو فيها بروباغندا بروباغندا كبيرة ممكن تعلم العالم شغلة مش موجودة أصلا.
Donc comme il a évoqué, il y a pas beaucoup de monde qui vont vouloir voyager dans un pays qui n'est pas forcément sécurité, ou, enfin, elle traite pays et folle, crazy country. Et donc, ce qu'elle dit, donc, d'où, là, le cinéma est vraiment très important pour transmettre cette image ou pour faire savoir des choses. Et donc, ce qu'elle va nous dire, c'est que, bah, en fait, tout le cinéma le fait, même le cinéma un peu sophistiqué, ou, enfin, ce qu'on voit sur Netflix, ou Amazon ou ailleurs. Donc, tout cinéma va avoir son influence, son message, et va impacter la vie des gens de tous les jours.
It can be used as propaganda as well. It can be used as propaganda for political reasons.
D'un côté, ça va apporter de l'information sur un conflit, sur une situation que personne ne va, enfin, peu de monde vont vouloir aller voir par leurs propres yeux. Mais on a cet autre cinéma qui va au-delà de montrer des choses qui peuvent être non liées, mais non, il va même jusqu'à la propagande et la propagande politique.
Pardon, je reprends la parole avant de vous la donner à la salle dans 5 minutes. J'aurais une question aux deux réalisatrices, peut-être un tout petit peu brutale, délibérément ou provocatrice. C'est pour qui vous faites du cinéma? Parce que dans ce que j'ai pu travailler et lire un petit peu, un des problèmes qui se pose parmi les multiples problèmes qui se posent aux réalisateurs, au moins palestiniens, ça concerne peut-être moins directement les juifs, mais enfin, j'aurais son avis aussi. Un des problèmes parmi beaucoup d'autres, c'est le problème de la diffusion. Qui voit ces films-là? C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'on se contente de faire... Enfin, se contente. Est-ce que, de fait, on fait des films dits de festival? C'est très bien, il en faut, hein, des festivals. C'est pas moi qui vais dire le contraire ici, hein, c'est pas nous. Mais quand même, à l'international, ou est-ce qu'on vise des publics locaux? Est-ce qu'il y a, alors, des publics locaux où ça? La question en Israël n'est pas la question dans les territoires occupés, Cisjordanie et Gaza, évidemment, mais ça se pose dans les deux cas. J'ai lu une interview d'un producteur palestinien d'Israël qui s'appelle Ahmad Barouti, je sais pas si vous le connaissez, qui dit, je suis en substance, hein, pour moi, il y a un problème majeur, c'est qu'on ne s'adresse pas assez au public israélien, et si on s'adresse pas au public israélien, alors on sert à rien. Je cite de mémoire, hein, il n'a pas dit ça comme ça, mais en fait c'est à peu près l'idée. Bon, mais après il n'y a pas que le public israélien, le public palestinien, il n'y a plus le cinéma en Cisjordanie, à part les centres culturels, etc. Donc, pour qui est-ce que vous faites du cinéma, mesdames?
Donc Ahmad Barouti, elle a dit que, donc juste la phrase que vous avez
citée. Oui, alors je c'est pas une citation exacte. Oui, que de son point de vue, lui c'est un Palestinien de 48, un Palestinien d'Israël, que si on ne vise pas, si on ne s'adresse pas d'abord au public israélien, israélien juif dans son esprit, j'imagine, alors je crois qu'il a dit on va dans le mur ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais au-delà de cette question, je veux dire, pour qui vous faites du cinéma? Pour les festivals internationaux ou pour des
publics? I prefer to answer the question because I don't know what Ahmad said and what he means because it's I don't know who said. That's in general. For who we make the movies? Who's the audience? مين الجمهور؟ أعتقد إنه هذا سؤال برضو عام. يعني في كل سينما إلها جمهور معين. If each film له جمهور معين. أنا بفكر شو الفيلم اللي بدك تقدميه لحتى مثلاً خلينا نقول فيلم زي الفيلم as I want. مين الجمهور؟ First of all, عشان بس أنا with the English and the, okay, with the okay. French and English and Arabic I get mixed up. عشان في سؤال تاني كان أنتوا بتعملوا أفلام بس للمهرجانات. لا بالعكس, بالنسبة لي المهرجانات هي الحمد لله أنها موجودة عشان هي بتفتح مجال للأفلام المستقلة الاندبندنت إنها تنشاف. غير هيك ما عندنا سوق. يعني فيلم تحبي تترجمي؟ I'm sorry, you guys need
عيد.
لا بلاش الجواب إنه of course الأفلام مش للمهرجانات, وشكرا للمهرجانات إنها موجودة لأن تخلي بالها على الأفلام الاندبندنت. هذا واحد.
خليني
Donc pour parler de quel public on vise, donc tout d'abord c'est pas, on fait pas les films pour les festivals, mais c'est en chance d'avoir les festivals qui permet donc qui ont une fenêtre pour les films indépendants pour qu'ils soient vus et diffusés.
اي علشان في افلام كتير مش مقبوله للجمهور, which is I understand. احنا بنعمل افلام عشان الجمهور. هلا فيلم الافلام مثلا الديكومنتري ما لها سوق بالسينما, يعني ما فيك تحطي فيلم ديكومنتري والناس تروح تتفرج عليه وتدفع تذكره.
دونك par rapport au public c'est que tout dépend des films, mais certains films par exemple les documentaires ils n'ont pas tant de public au cinéma. Les gens vont pas forcément payer un ticket de.
C'est la little chance, yani.
Donc il y a peu de chances ou peu de monde qui vont s'intéresser à aller au cinéma pour avoir un film de commentaire. Alors juste au départ, je me souviens ce que j'avais pas traduit, c'est que ils voulaient juste commenter sur la question quel public ils visaient. Ils voulaient pas commenter la partie donc pensée audite par Balrotti parce que il a pas lu vu par
elle-même, donc elle va pas rentrer autant du film. ما فهمت هم مين هدول اللي بيقولوا هيك صراحة. فنقطة تانية الأفلام, أنا بالنسبة لي شخصيا يعني أنا إذا بدي أعمل أفلام بحب أخاطب الأجيال الجديدة كلها, لأنه الأجيال القديمة متعودة على إشي معين وما عم تطلع منه. بالنسبة لي هذا إشي يعني شخصي.
Donc selon elle et personnellement ce qui l'intéresse c'est vraiment s'adresser aux nouvelles générations, parce que selon elle les anciennes générations ils ont plus ou moins leur monde et ils n'ont pas envie de sortir.
عندي أمل كتير كبير في الأجيال الجديدة, يعني هذا
beaucoup d'espoir pour les nouvelles générations.
Voilà, mais après as well it depends what is the film. There is films social for اجتماعي, film اجتماعي, في film action, في it depends شو الأفلام.
Donc encore une fois bah, ça dépend aussi des films lorsqu'on veut parler de ce public, donc ça peut être un film donc social, action, enfin ça dépend.
وفي أفلام عن الحب والناس كلها بتحب أفلام الحب وتحب تتفرج عليه الكبار والصغار.
Depends
I think
romance.
Okay, on va donner la parole à Julie, voilà, sur cette question.
Merci.
Rapidement, et puis ensuite on va passer à la question.
Moi, quand je fais un film, je me pose pas vraiment la question. En fait, je suis tellement passionnée par mon sujet que je me dis que ça intéressera forcément tout le monde. Et puis après, je me rends compte que bah, c'est pas toujours le cas. Mais bizarrement, je retombe dans cette naïveté à chaque fois. Alors après, évidemment, bah là par exemple, pour financer Fedora, on a dû faire un dossier pour la télévision, etc. Donc il y a une version aussi télévisuelle du film qui est plus courte, et c'est vrai qu'on a la télévision et un espace de diffusion des documentaires, mais en même temps, c'est un espace très normé. On nous impose forcément il faut des interviews, il faut une voix off explicative. C'est vrai que moi je fais pas forcément des films ultra explicatifs, enfin c'est pas des formes qui m'intéressent, donc je me sens souvent très contrainte. Et par exemple la version de 52 minutes que j'ai dû faire pour la télévision, bon je l'ai faite mais je n'ai pas plaisir à la montrer, voilà. Après je pense qu'elle informe néanmoins et que peut-être ça a quand même une vertu, enfin j'essaie de faire du mieux que j'ai pu avec les contraintes, hein. Mais voilà, moi c'est pas un cinéma idéal. Alors après la question qui est quand même pas inintéressante sur laquelle cette problématique de savoir s'il faut que on s'adresse au public israélien. À vrai dire, je pense que quand on ne veut pas voir, malheureusement, on ne voit pas. Et moi-même, j'ai quand même aussi fait ce film. Alors, bon, pour les Israéliens, non, je me disais que là, non. Enfin, je me faisais pas beaucoup d'illusions. Après, je me disais que peut-être des Juifs en France, quand même, pourraient aussi faire évoluer leur point de vue. Bon, je me rends compte qu'en effet, pareil, quand on ne veut pas voir, on ne vient même pas à la projection. Voilà. Et donc, ça, c'est quand même une difficulté voilà, pour laquelle je n'ai pas de... J'ai pas de solution, quoi. C'est...